Le soleil printanier entre en flot de lumière par la fenêtre de la chambre. François ouvre un œil, puis l'autre. Il sent sous son dos le drap raide, frais et propre. Il ne sait pas où il est, mais il perçoit une odeur de désinfectant et de médicaments qui ne lui dit rien de bon. Il s'aperçoit soudain du son qui s'échappe d'un meuble derrière lui, des bips réguliers qui marquent chaque battement de son cœur. En regardant vers le bas du lit, il devine que sa jambe est immobilisée et il voit sur sa main un cathéter qui mène à un sac de goutte à goutte suspendu à une longue tige de métal. Il ne peut pas bouger le bas de son corps et malgré les analgésiques, sa tête est douloureuse. Soudain, des images lui reviennent et il comprend. Il se revoit, crampon au pied et ski sur le sac dans le massif du Grand Combin, son massif à lui, celui qu'il connaît comme sa poche et auprès duquel il a grandi. Il se souvient d'avoir pensé ce matin-là, lors du départ, à son expédition en Himalaya, exactement 20 ans plus tôt, lorsqu'il avait presque atteint le sommet du Dolagiri, à 8100 mètres, seul sur l'arête nord-est de la montagne.
Nous partons pour explorer le Dolagiri. C'est un sommet de 8172 mètres, dont les versants nord, est et sud ont déjà été explorés par l'expédition française qui a gravi pour finir l'Annapurna en 1950. Nous pensons que le versant ouest de cette montagne, qui a été photographié du nord par les Français, présente la seule chance d'accès au sommet, et c'est ce qui nous intéresse, et c'est le but de notre expédition, c'est d'explorer ce versant et de tenter l'ascension.
À l'époque, en 1995, seul à plus de 8000 mètres, il avait contemplé les Annapurna en face, puis sagement choisi de redescendre à 50 mètres du sommet, à cause d'une corniche qui l'empêchait d'avancer. François frissonne dans son lit d'hôpital en repensant à l'accident d'hier, à cette plaque avant sur le massif du Grand Combin, tout près de chez lui, qui a cédé alors que rien ne semblait l'annoncer. La neige était parfaite, l'exposition aussi. Et en guide expérimenté, il avait choisi le parcours le plus prudent pour lui et l'ami qui l'accompagnait. Il tremble sous les draps en revivant la chute de 150 mètres, le saut épique par-dessus un éperon rocheux et l'impact qui lui a fracassé le corps. François se répète en boucle la question qui pourrait bien le tuer. Ai-je commis une faute ? Il se raisonne, pense à cette autre phrase qu'il a serinée à tous ses élèves apprentis guides. Expert, méfie-toi. L'avalanche ne sait pas que tu es un expert. Mais la question revient, lancinante, et il refait ce parcours inéluctable jusqu'à la chute, encore et encore, analysant chaque pas, décortiquant chaque décision, en se disant que peut-être l'accident aurait pu être évité. La porte de la chambre s'ouvre et laisse la place à un homme au regard bleu compatissant, bras musclés, physique athlétique, qui porte blouse blanche et stéthoscope. C'est Raymond, le chef du département des soins intensifs de l'hôpital de Sion. Il détaille à François le verdict de ses blessures, lui dit qu'il s'en remettra mais que ce sera long. Il utilise des mots compliqués comme traumatisme crânien et multiples fractures, fémurs, oscillaques et bassins, mais aussi traumatisme psychologique et accompagnement thérapeutique. L'esprit de François, embué par la morphine, vagabonde sur les vagues de ses paroles médicales. Il pense à Bernard et à ses fameux cafés mortels.
La morbe, d'abord, nous y passons tous. Hein. C'est une faucheuse qui égalise absolument toutes les conditions. Elle est profondément inégale par tout ce qui se passe au moment de mourir, dans la démonstration cérémonielle des obsèques et tout ça, etc. Le dernier cinéma. Moi, je trouve que les survivants sont relativement bien entourés aujourd'hui, une équipe de toubibs, d'infirmières, de choses. Et nous, les vieillissants, nous gardons des tas de secrets que nous avons partagés avec les autres. Pensez-vous, madame, que j'ai toutes mes facultés ? Est-ce que je suis en train de vous dire deux fois la même chose ? Il y a des tas de questions gênantes. Je trouvais qu'il y avait là une certaine inégalité de traitement.
Le médecin est reparti. François somnole, sa tête enrobée de bandages posés sur l'oreiller d'hôpital qui sent la bétadine et le chou-fleur. Il discute avec « celui qui veille là-haut », comme il l'appelle. Il redécouvre sa foi, enfouie sous des couches de rationalisme. Il se dit qu'en effet, il a de la chance, qu'il vient d'utiliser son joker de guide et que maintenant, peut-être, Il mourra comme Bernard dans la catégorie de ceux qui vieillissent, riche de son statut de survivant. La porte s'ouvre à nouveau. C'est sa fille Montaigne qui vient lui rendre visite. Le visage de François s'éclaire et se baigne de larmes. Il se souvient de ce moment où, toute petite, entre ses bras, elle recevait le sacrement du baptême dans un lieu haut perché et légendaire, du côté du Grand Saint-Bernard.
L'hospice, je l'ai découvert pour la première fois en 1940. J'étais étudiant, par conséquent, c'était 3 ans avant d'entrer dans la congrégation. Je suis monté en 40, c'était l'époque où l'écart circulait très peu, pour la bonne raison, il n'y avait pas de benzine, pas d'essence. Alors je suis monté avec un de mes confrères, qui a entré une année après moi là-haut, à pied depuis Orcières. Ah oui. Partait à 2h30, 3h d'Orcières, on arrivait à la tombée de la nuit. C'était 9h, 9h30.
Le repas du soir arrive, Montaigne mange avec son père, ils ne se disent pas grand-chose. Mais on peut déceler, entre les paroles banales, le soulagement de savoir que François a échappé à la mort et l'amour qui circule silencieusement entre eux. Le plateau est vide, le soir est tombé. François est seul dans sa chambre et sourit faiblement à l'infirmière qui vient débarrasser et vérifier les médicaments. Ses yeux se ferment, le voilà endormi. Le printemps valaisan filtre par la fenêtre entrouverte et saupoudre les paupières fermées de François. Son visage s'agite, il rêve. Il est sur une légère pente, derrière le chalet à Verbier. Il a de petits skis aux pieds, des skis en bois où sont vissées des arêtes. Le décor change dans le rêve de François, le voilà accroché à la ficelle à Joseph, le téléski des petits. Et il regarde ses skis, on dirait une course. Le gauche veut dépasser celui de droite, le petit garçon commande dans sa tête, la neige fuse de chaque côté comme des petites comètes. Dans son lit, une place, au cœur des soins intensifs de l'hôpital de Sion, François est toujours endormi. Sa jambe est cassée en 1000 morceaux. Son bassin est en miettes. Mais dans son rêve, il y a un petit François qui arrive en haut de la piste et s'élance à toute vitesse vers le bas, solide et fier sur ses skis en bois.
Verbier, c'est formidable. En hiver, pendant les vacances, on skie du matin jusqu'au soir. Pour nous, pas de problème. On sait tout faire. On descend toutes les pistes. On sait faire le Stum, le Christi, l'Off et même la Godille. On rit, on devance les gens qui ne savent pas aller et qui tombent à tout bout de chemin.